Bienvenue dans Histoire de Savoir sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Europolis, Thomas Gesseling ce micro. Aujourd'hui, on va parler de développement personnel. Pourquoi faudrait-il se ressourcer ? Avec comme base un article paru dans le magazine scientifique en ligne The Conversation, le titre donc « Développement personnel, pourquoi faudrait-il se ressourcer ?» Point d'interrogation, un article signé Yael Dansag, notre invitée. Elle est anthropologue et collaboratrice scientifique au Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité, acronyme CIERL, un centre de recherche qui dépend bien sûr de l'Université libre de Bruxelles. Spécialiste des pratiques néo-païennes et du New Age, elle a mené des travaux ethnographiques intensifs à long terme au Mexique, en France, en Belgique ou encore au Royaume-Uni. Et parmi les sujets de recherche de Yael Dansag, la créativité dans les pratiques spirituelles contemporaines, la dimension phénoménologique de la spiritualité ou encore la sacralisation contemporaine des sites archéologiques ou les relations entre écologie et religion. Bref, pas mal de sujets, mais aujourd'hui, on se penche donc sur la question, on revient un peu aux fondamentaux d'une certaine manière, du développement personnel. Pourquoi faudrait-il se ressourcer ? Le titre d'un article publié dans le magazine de vulgarisation scientifique en ligne, The Conversation, on retrouve Yael Dansag dans quelques instants. Bonjour Yael Dansag.
Bonjour.
Vous êtes en studio aujourd'hui pour nous parler développement personnel. Pourquoi faudrait-il se ressourcer ? Il y a un point d'interrogation, bien sûr. Faudrait-il se ressourcer ? C'est aussi au conditionnel. Vous avez publié un article dans la revue scientifique en ligne The Conversation, sous ce titre, hein, développement personnel, pourquoi faudrait-il se ressourcer ? Vous êtes anthropologue et collaboratrice scientifique au CIERL. C'est le Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité. Alors, on a l'impression, à la lecture de cet article, Yael Dansag, que vous avez l'intention, avec ce que vous écrivez là, de revenir aux fondamentaux. C'est un peu ça ?
Oui, c'est ça.
Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'entend-on par le développement personnel ?
Quand on parle de développement personnel, on parle d'une démarche qui met l'accent sur l'amélioration de la santé physique, mentale et spirituelle de la personne. Donc, c'est une démarche qui comprend notamment la pratique de la pensée positive et la valorisation des potentiels qui sont censés être cachés à l'intérieur de chaque personne.
Alors, c'est vaste ce qui est derrière. Parfois, certains diront que c'est un concept un peu fourre-tout, le développement personnel, mais ça peut toucher à plein de disciplines, non ?
Exactement. Il y a plusieurs frontières perméables entre développement personnel et d'autres pratiques, on peut dire, dans ces cas-là, spirituelles, auxquelles je m'intéresse.
Alors, développement personnel, deux points. Pourquoi faudrait-il se ressourcer ? C'est le titre donc de cet article que vous avez publié dans The Conversation. Alors, que recouvre pour vous ? On vient de parler de développement personnel, on y reviendra inévitablement au cours de notre entretien. Mais l'autre terme fort, c'est le terme se ressourcer. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme qui semble très présent sur le marché du développement personnel ?
Donc, à première vue, c'est verbe, car c'est un verbe pronominal, paraîtrait signaler une tâche sisyphène, en référence au mythe de Sisyphe, c'est-à-dire un devoir répétitif,
un éternel recommencement.
Cyclique, exactement. Celle de réacquérir de manière répétitive des potentialités perdues au cours d'une trajectoire personnelle, mais qui demeure à l'intérieur de chacun. Quand j'ai commencé à m'intéresser par ces termes, je suis allée au dictionnaire pour savoir qu'est-ce que c'est exactement se ressourcer. Et selon Larousse, c'est le fait de revenir à ses sources ou de retrouver ses racines profondes. Donc, il y a dans le terme se ressourcer l'idée d'un retour à la source ou à un lieu ou à un espace-temps, comme si on devrait retourner et chercher quelque chose de notre essence, qu'on a déjà perdu, mais en même temps, elle est là. Donc, on peut, de manière cyclique, la retrouver quand c'est nécessaire.
Oui, la source, vous qui aimez Yael Dansac, plongée dans le dictionnaire, manifestement, c'est effectivement là d'où émerge quelque chose, un flot, un flux. Alors, c'est quoi l'idée de ressourcer? C'est renvoyer à sa source primaire, fondamentale, une capacité de rencontrer une partie perdue de son essence et de son énergie, comme vous venez de le dire.
Alors, qu'est-ce que c'est la source? Pour moi, la source désigne un espace, ça peut être un espace physique ou ça peut être un moment aussi, qui nous permet ou qui permet à la personne de faire un type de quête personnelle très spécifique. Mmh. Un type de quête où on s'interroge au plus profond de nous-mêmes, on réfléchit à notre raison de vivre, on réfléchit à nos problèmes. C'est un espace où on peut se donner à la méditation, à la réflexion sur soi-même, pas non seulement sur nos problèmes, mais sur les choses qu'on veut faire, nos rêves, nos souhaits. Mmh. Donc, pour certaines personnes, la source peut être, par exemple, une activité comme le yoga. Ça peut être une promenade en nature. Pour d'autres personnes, la source est un parc, la plage, la forêt. Donc, vous voyez, ça peut
être...
Des endroits apaisants. Ça peut être un moment dans l'année, comme par exemple les 21 juin lors des équinoxes, quand il y a normalement... dans certains lieux naturels de cérémonie, ça peut être aussi considéré comme la source, un espace où on va se plonger dans ce type d'interrogation, de travail réflexif sur soi-même. Alors, la seule condition d'une source pour être considérée en tant que source est de permettre à la personne de se sentir bien et en harmonie avec soi-même. Ça serait, selon mes interlocuteurs, la seule caractéristique qu'elle doit avoir.
L'équilibre, l'ancrage, le recentrage, c'est ça?
C'est ça. Donc, vous voyez, choisir la source, c'est une tâche qui est dirigée par nos émotions et nos subjectivités. Il n'y a pas qu'une seule source.
Et est-ce que la dimension, Yael Dansac, spirituelle est toujours quelque part cachée ou bien très clairement démontrée dans ces actes de ressourcement?
Ce que j'ai vu dans mes enquêtes en France, en Belgique, comme au Royaume-Uni, c'est qu'il y a certaines pratiques où les discours spirituels est en contact très très fort avec cette notion de ressourcement. Ce ressourcement passe par soigner son esprit, par développer son bien-être spirituel. Donc, il y a tout un discours qui peut parler sur les esprits de la nature, par exemple, qui fonctionnent comme intermédiaires, qui vont nous aider à nous ressourcer. Mmh. Il y aura aussi des discours sur tous les caractères de transformer ton esprit en même temps que tu es en train de te ressourcer. Ça, c'est dans certaines pratiques, notamment des pratiques qui sont fondées sur la nature, des spiritualités fondées sur la nature. Mais il y aura d'autres... Et on le voit surtout dans les milieux urbains, des pratiques telles que des stages de yoga, telles que aussi la sophrologie, qui est aussi très en vogue aujourd'hui, et d'autres, inspirées par exemple des techniques orientales. Cette discours spirituel, il sera moins entendu, même, je dirais pas caché, mais très dissimulé. Et le terme se ressourcer sera associé pas à une démarche de soigner l'esprit, mais plutôt du bien-être, lié à des thérapies alternatives où vraiment les côtés spirituels a déjà été, on dirait, enlevé.
Yael Dansac, vous êtes anthropologue, collaboratrice scientifique au Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité, le CIERL, en acronyme de l'Université libre de Bruxelles. Et vous êtes spécialisée dans les pratiques néopaïennes, le New Age. Vous avez mené des travaux ethnographiques intensifs et à long terme au Mexique, en France, en Belgique, au Royaume-Uni. Enfin, vous avez bourlingué un peu à la recherche de ces spiritualités. On a l'impression qu'il y a eu une heure de gloire de ces spiritualités. Je pense au New Age ou autre, avec des coachings en développement personnel. Enfin, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a toujours ces pratiques ont toujours la cote et auprès d'un public variable ou toujours le même?
D'après mes enquêtes, dans les dernières 20 ans, c'est-à-dire depuis les années 2000, les techniques et discours du développement personnel ont acquis un succès considérable en dehors du monde spirituel. C'est-à-dire, ces langages du ressourcement est rentré dans le monde du travail, dans les universités, même dans les espaces sportifs qui sont tenus par les administrations et par certaines mairies.
Donc vous voulez dire plus aujourd'hui encore qu'hier?
Je trouve que oui, il a un succès, on dirait, exagéré, extrême. Et la population attirée par ce type d'expérience ressourçante est devenue elle-même très diverse. C'est-à-dire que c'est très compliqué de donner un profil démographique précis des gens qui seront attirés par ce type d'expérience. En plus de ça, l'essor des réseaux sociaux, le fait de montrer au monde ce qu'on est en train de faire, a aussi augmenté la visibilité des pratiques de développement personnel. Et je donne comme exemple le fait que depuis 10 ans, quand je me trouve dans des pratiques comme promenade ressourçante en nature, séjour ressourçant de yoga, je ne sais pas, dans la montagne, les gens sont constamment dans leur téléphone. Au lieu de se ressourcer, ils sont constamment dans leur téléphone en train de montrer qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc cette visibilité, je pense, elle a augmenté encore plus la visibilité de ce type de pratique. Elle a attiré encore plus des personnes des générations très, très différentes vers ce monde du bien-être.
Voilà, c'est infusé un peu plus largement et plus diffusément dans la société, entre autres, comme vous le disiez, Yelda Dansac, sans doute grâce aux réseaux sociaux. Et donc ça veut dire que tout le monde est potentiellement intéressé, ou tout le monde a un avis en tout cas sur la question.
Alors, j'ai rencontré lors de mes enquêtes des étudiantes comme des universitaires, des universitaires comme des femmes de foyer, des astrologues comme des psychologues, des architectes comme des ingénieurs. Donc, ça attire des gens de professions très variées, des retraités aussi, mais je pense que s'il y a un point commun, c'est que ces personnes, normalement, ont un niveau d'études élevé, donc universitaire ou plus haut encore. C'est ça que j'ai trouvé, et on a une absence très marquée des populations issues de l'immigration. Ça aussi serait donc les deux points en commun qu'il y a dans cette basse diversité, dans cette population très diverse qui est attirée par ces pratiques.
Vous êtes anthropologue, Yael Dansac. Est-ce que ça veut dire que pour connaître tout ça, il y a une étude, bien sûr, de l'universitaire que vous êtes, de la chercheuse, mais aussi il faut pouvoir mettre un peu les mains dans le cambouis, aller sur le terrain et essayer ces pratiques?
Tout à fait. Être anthropologue, pour nombreux, se traduit par faire de l'ethnographie. Et faire de l'ethnographie, c'est aller sur le terrain et faire de l'observation participante. On ne peut pas rester à l'écart. Il faut participer aux pratiques pour tenter de comprendre l'expérience des personnes qui se livrent à elles. Car c'est ça exactement le fil conducteur de mes recherches. Je me suis toujours intéressée par l'élaboration de l'expérience spirituelle, somatique, affective des personnes avec la nature ou avec des êtres non humains. Donc pour comprendre comment ils s'élaborent cette expérience spirituelle, il fallait me mettre, jouer les jeux, me mettre à leur place et tenter de comprendre avec mon propre corps et mes expériences ce qui se passe dans ces pratiques. Aussi pour tenter de clarifier, de les démystifier et avoir une réponse plus claire à pourquoi tel succès, pourquoi elles attirent tellement du monde.
Démystifier.
Oui.
Ça, c'est central aussi dans votre démarche.
Try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired. bright, but you can't sleep. Stuck in reverse, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights will
dans votre article, hein, dont je rappelle le titre « Développement personnel, pourquoi faudrait-il se ressourcer ?» point d'interrogation, qui est publié dans la revue scientifique en ligne The Conversation. Il y a des formules qui reviennent, hein, « centré, ancré, équilibré », ça participe à ce culte du ressourcement. Et puis par rapport à ce que vous disiez, Yael Dansac, sur la présence des réseaux sociaux qui augmente la visibilité de ce genre de pratique, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de distance avec notre société qui est avide de rapidité et d'efficacité directe? Ce besoin de dire, ben, ok, bloquer, je mets les choses en pause, même si manifestement on n'y arrive pas toujours parce qu'il y a toujours les écrans qui sont à proximité.
Nous pourrions dire, oui, qu'il s'agit d'une prise de distance, mais moi, je préfère de le voir comme si se ressourcer serait a priori une sorte de remède temporel, évidemment, pas définitif, au burn-out, ainsi qu'à d'autres problèmes attribués à notre mode de vie moderne. Donc il y a évidemment une critique à la modernité, une critique à l'accélération, à ce rythme de vie qu'on a, au capitalisme. Mais en même temps, se ressourcer, c'est le produit de cette même vie. On n'aurait pas besoin de se ressourcer si nous ne sommes pas...
Si on n'était pas déconnecté.
Exactement. Mmh. Donc pour certains, se ressourcer est un produit ou le résultat de notre passage à une société d'accélération. C'est un moyen privilégié ou l'outil, le seul outil qui peut nous aider à surmonter, à nous soigner, à nous rétablir de la fatigue physique, mentale et spirituelle que nous subissons sous la pression d'un rythme qui est sans cesse accru, vous voyez, ne s'arrête pas. Donc, dans un monde où il faut faire preuve d'une bonne performance dans tous les domaines de notre vie, ces ressourcés sont devenus indispensables.
Yael, dans ça, j'entends que vous parlez de produits. Alors là, on est dans un discours très capitaliste presque. Est-ce qu'on peut parler de marché?
Oui, de marché spirituel. Donc il y a en effet, j'utilise cette expression de marché, c'est pas un marché physique, c'est vraiment un réseau de personnes qui organisent des pratiques en France, en Belgique, ailleurs. C'est des personnes qui se déplacent entre plusieurs points pour offrir des stages spirituels censé permettre de se ressourcer. Et on parle de marché car ces personnes sont en constant compétition entre elles-mêmes. Donc chaque personne va tenter d'offrir un produit, une expérience différente. Ça peut être, comme j'ai dit, un stage en forêt, comme ça peut être une semaine en Bretagne pour se promener entre le mégalithe. Et il y aura des personnes qui vont mixer ou faire des mélanges dans une sorte de bricolage entre des pratiques New Age et des pratiques néo-païennes, entre des discours de développement personnel avec des formes de Reiki, par exemple occidentale, ou des formes de yoga occidentale. Donc il va avoir ce type de bricolage pour tenter d'attirer des potentiels cliente qui veut s'investir dans ce type de pratique.
Ça veut dire que c'est en éternelle et constante évolution, en fait. Parler de bricolage, mais ce sont des constructions qui parfois amènent à des nouvelles pratiques qui peuvent être institutionnalisées presque.
Oui, je pense qu'on va vers une institutionnalisation, tout à fait, car ces marchés qui attirent énormément de personnes. Il y a plusieurs organisateurs qui vivent toute l'année d'offrir ce genre de pratique. Ce que je veux dire, c'est que normalement, quand il y a un produit, je parle de produit, quand on a un produit qui commence à être demandé fortement par plusieurs secteurs de la population, ça peut amener à une institutionnalisation. C'est-à-dire qu'on va demander une formation, on va tenter de cadrer les personnes qui organisent des pratiques ressourçantes. Et ces cadrages passent par une formation, passent par des diplômes, passent par certaines règles qu'il faut respecter. Et ces marchés spirituels, je pense, il va vers on va passer de cette diversité étonnante des pratiques ressourçantes, peut-être en quelques années, à avoir seulement quelques axes.
On verra, l'avenir nous le dira. Alors, vous avez pas mal bourlingué, Yael Dansac, hein, vous avez travaillé, vous avez voyagé et travaillé au Mexique, au Royaume-Uni, en France, en Belgique. J'imagine qu'on observe des troncs communs et puis des divergences. Mais ce retour aux sources dans les pratiques spirituelles, c'est souvent sur des pratiques spirituelles séculières, très anciennes, que tout ça se, se positionnent, s'ancrent. Lesquelles, par exemple?
Quand je parle des pratiques séculières, pour tenter d'éclairer plus cette expression, il s'agit des systèmes de croyances, des systèmes de pensée, des pratiques rituelles qui sont nées en dehors de la matrice chrétienne, qui est considérée traditionnellement la religion de l'Occident. Et ce sont aussi des systèmes de croyances développés dans la deuxième moitié, notamment du XXe siècle. Donc, ils ne sont pas si anciens. Et c'est des croyances qui conçoivent la nature comme un être vivant, qui sont inspirées de l'ésotérisme occidental, aussi de l'occultisme, et que certains chercheurs désignent comme issus du New Age et du néopaganisme. Il s'agit aussi des pratiques qui sont considérées comme séculières car il n'y a pas une institution. Ce sont des communautés, des groupes acéphales. Il n'y a pas un dirigeant, vous voyez.
D'accord.
On fait l'expérience et on part. Ça arrive souvent que ce n'est pas des endroits, des réseaux sociaux où on va faire des relations durables avec les gens. Donc, on est là pour avoir une expérience individuelle, mais pour l'éprouver dans un collectif. Donc, il y a plusieurs caractéristiques qui manquent pour parler d'une institutionnalisation ou même d'une religion. C'est pour ça qu'on parle vraiment de spiritualité au sens large et séculière, car il n'y a pas vraiment une institution ni physique ni morale qui va cadrer ces spiritualités.
Ok, on est loin des expériences années 70 avec des gourous, quoi.
Exactement.
Ok. Vous dites aussi dans cet article que c'est un système de croyances qui emprunte au langage du monde scientifique. Alors ça, c'est étonnant aussi, parce qu'on a beaucoup parlé d'ésotérisme, de spiritualité. Ce côté ésotérique et scientifique, ils font bon ménage, Yael Dansac.
Alors, depuis longtemps, depuis le 19e siècle, les pratiques comme la parapsychologie ou l'espiritisme faisait usage d'un langage très rationnel et très scientifique. En fait, ils tentaient même de reproduire, de faire des expériences pour reproduire leur découverte et tenter de leur donner de la crédibilité et de justifier ces méthodes comme scientifiques. Donc, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas d'hier, cette désir d'utiliser des mots comme énergie, ondes magnétiques et d'autres qui nous rappellent au langage de la physique quantique ou de la médecine ou même les mathématiques. Donc c'est déjà de longue date cet usage d'une terminologie scientifique, pas seulement pour justifier, mais aussi pour rassurer les gens qui vont s'investir à ces pratiques. Vous voyez, ce sont des pratiques où on va parler des énergies, des esprits, des êtres non humains, des réseaux magnétiques qui sont sur la Terre. Donc le fait parfois d'utiliser un langage scientifique va rassurer les gens. Car en même temps, même s'il s'agit des expériences extraordinaires, elles peuvent s'exprimer par le langage de la science. Donc, plus que dire qu'elles font bon ménage, les côtés ésotériques et scientifiques, ça fait longtemps qu'on les a mis côté à côté.
Que l'un s'appuie sur l'autre. Merci beaucoup, Yael Dansac. Quand même, j'aimerais juste revenir une fois de plus, bon, aussi à quelques fondamentaux. On a beaucoup parlé lors de cet entretien de New Age, de néopaganisme. En deux mots, c'est quoi les différences, les grandes lignes de fracture entre ces tendances et peut-être d'autres encore?
Alors, plusieurs chercheurs comme Stephen Sutcliffe, qui est quelqu'un qui a beaucoup théorisé sur les New Age, et moi-même. On considère les New Age vraiment comme un réseau composé de pratiques, de personnes et d'idées qui sont en constant déplacement. Et ces idées, ces pratiques vont se fonder très, très fortement sur une théorie du vrai soi. Cette idée que notre vrai soi doit prendre en compte chair et esprit, le corps, pas que le corps, mais le corps, le mental, le spirituel. Donc, New Age aussi, c'est un univers très, très varié qui trouve ses origines dans la théosophie. La théosophie, c'est une reformulation des savoirs ancestrales, notamment de l'Inde et d'autres pays du sud-est asiatique. Donc, le New Age est beaucoup plus ancien, on pourrait dire, que le néopaganisme. Le néopaganisme, aussi nommé paganisme moderne, n'est pas si flou. On pourrait dire même qu'il y a des frontières un peu plus cadrées, car c'est un ensemble de pratiques religieuses où on tente de revitaliser des traditions religieuses pré-chrétiennes, européennes, pas n'importe lesquelles, traditions religieuses pré-chrétiennes européennes, où on tente aussi de trouver la magie, les côtés magiques enchantés de la nature, et où il peut y avoir un panthéon des dieux. Donc, on n'a pas de dieux dans les New Age, normalement. C'est dans les New Age, c'est le travail, c'est sur nous-mêmes, le travail c'est intérieur, et c'est moi-même qui va se transformer. Et dans le néopaganisme, ce n'est pas tout à fait un travail sur moi-même qui je suis en train de chercher. Les néopagans seront plutôt intéressés à célébrer le côté magique de la nature, les côtés enchantés de la nature, à se sentir eux-mêmes en avec la nature. Donc, vous voyez, il y a une mouvance qui est, on pourrait dire, anthropocentrique, et une autre qui tente de ne pas l'être.
Merci beaucoup, Yael Dansac. Je rappelle que vous êtes anthropologue, on en a parlé, et collaboratrice scientifique au Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité, le CIURL. Vous faites quoi exactement au sein du CIURL de l'Université libre de Bruxelles?
Alors, pour vous expliquer comment suis-je arrivé au CIURL, il faut aller un peu plus...
Il faut revenir dans mon parcours.
En fait, j'ai fait ma thèse de doctorat en anthropologie sociale et ethnologie à l'EHESS à Paris, avec une thèse sur les pratiques spirituelles dans les mégalithes de la Bretagne. Et cette thèse, bon, très très centrée sur les pratiques rituelles avec les non-humains, m'a incité à diriger un ouvrage. Un ouvrage qui est devenu une référence dans les études sur les non-humains. Et elle s'appelle « Relating with More Than Humans, Interviewing Rituality in a Living World » et je l'ai co-dirigé avec Jean Chamel. Donc, en 2022, à peine quelques mois après ma soutenance et la parution de cet ouvrage, j'étais lauréate d'une bourse de post-doctorat Marie Curie Civis qui m'a permis de m'intégrer au sein du Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité de l'ULB. J'avais choisi ces laboratoires, car c'est un laboratoire de référence des chercheurs qui analysent les faits religieux dans leur profondeur diachronique et transversale, mais aussi car depuis 1980, le CIURL organise et met en place des enquêtes sur les pratiques spirituelles en Belgique. En fait, c'était le premier centre de recherche qui a commencé à s'intéresser dans les années 1980 par toutes ces courantes qui venaient notamment du monde anglo-saxon et qui commençaient à être visibles notamment à Bruxelles. Donc, à cause de cette, on va dire, cet intérêt des chercheurs du CIURL, pas notamment par les mondes chrétiens, les mondes musulmans, les mondes juifs, mais aussi par ces spiritualités séculières, je me suis dit, ça, c'est vraiment l'endroit idéal pour mener une enquête qui, en quelque part, sera une continuation. Elle va nourrir des enquêtes précédentes, déjà faites par mes collègues, sur la dissémination et l'ancrage de ces spiritualités alternatives, en Wallonie notamment.
Voilà, et donc vous êtes auteur du coup de, Yael Dansac, de 3 ouvrages, de 40 articles scientifiques et d'une soixantaine de communications scientifiques. Et vous êtes coordinatrice aussi d'un réseau.
À l'heure actuelle, en plus d'être collaboratrice, directrice scientifique au CIRL. Un rôle qui me demande d'intervenir dans certains séminaires, de collaborer dans les colloques annuels. Au-delà de ça, je co-dirige un réseau sur l'étude des pratiques spirituelles. C'est un réseau de l'Association européenne d'anthropologues sociaux. J'ai fait aussi des travaux d'édition dans le Journal for the Study of Religion, Nature and Culture. Et bon, je travaille dans plusieurs groupes d'études en Europe comme aux États-Unis. Et bon, ça m'a permis évidemment de comparer mes enquêtes avec celles d'autres collègues, d'élargir mes connaissances sur la manière comme ces pratiques et ces discours non seulement sur le ressourcement, mais plus largement sur les spiritualités, peuvent se visualiser en Occident comme en Amérique latine, peuvent s'étudier par l'ethnographie ou avec d'autres moyens, plutôt l'ethnographie virtuelle, par exemple, maintenant avec les réseaux, diversifier mes méthodes d'enquête. Donc, c'est pour ça que ça a été super important depuis le départ de mon parcours de publier mes travaux en trois langues, de tenter de m'exprimer dans trois langues pour ainsi pouvoir m'ancrer dans des réseaux francophones, dans des réseaux européens et extra-européens, et avoir cette vision beaucoup plus large, car au final, c'est ces spiritualités alternatives, ces termes comme ressourcés, qu'on peut trouver traduits dans d'autres langues, et qui signifient presque la même chose. Il y a bien sûr des différences, mais tous ces langages, toutes ces idées sont en constante déplacement et mobilisation. Donc, ils se nourrissent d'éléments locaux et en même temps, ils se nourrissent d'éléments globaux.
Globaux, oui.
Donc, c'est pour ça que c'est important quand on fait ce type d'enquête ou quand on s'intéresse à ce type de sujet, on ne peut pas seulement regarder ce qui se passe en Wallonie, ce qui se passe en Belgique ou ce qui se passe dans l'Europe atlantique. Il faut avoir un regard vraiment le plus étendu possible pour pouvoir comparer et voir d'où viennent certains éléments et pourquoi ils sont en train de s'ancrer ici et pas là-bas.
Voilà, avoir un regard large et ouvert, bien sûr, sur toutes ces disciplines. Je rappelle le titre de l'article publié dans la revue The Conversation, Développement personnel, pourquoi faudrait-il se ressourcer, point d'interrogation. Toute dernière question, pourquoi vous avez mis un point d'interrogation à la fin de ce titre?
Alors, l'idée, c'était de remettre en question ces termes. Oui, toute l'idée de l'article, en fait, c'était d'interroger qu'est-ce que c'est exactement se ressourcer. Pourquoi faudrait-il le faire? Quand on parle de ressourcement, et on lit les discours et même les descriptions de certaines pratiques ressourçantes, ces termes désignent une prescription, une sorte d'ordre. Il faut se ressourcer. Il faut le faire ou on peut tomber malade. Il faut le faire ou tu n'auras pas la performance qu'il faut avoir pour faire tes devoirs au quotidien, etc. Donc, vu que c'est une prescription, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas même mettre en question, toute l'idée du point d'interrogation, c'était
de réinterroger
et le passer un examen.
Merci Gaëlle Dansac.
Merci.
Voilà, c'était Yael Dansac qui signe donc cet article paru dans The Conversation, le titre « Développement personnel, pourquoi faudrait-il se ressourcer ?» Point d'interrogation. Je vous rappelle que Yael Dansac est anthropologue et collaboratrice scientifique au CIERL, le Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité de l'ULB. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Au revoir.